Bonjour les collègues, vous écoutez La Gueule Ouverte, l'émission mensuelle d'Attaque Marseille, les deuxièmes jeudis de chaque mois de 15h à 15h30 sur Radio Galère. La Gueule Ouverte, une émission qui fait monter la yoli, qui boulègue les consciences et qui dit stop aux connos.
Bienvenue dans La Gueule Ouverte, l'émission mensuelle d'Attaque Marseille sur Radio Galère. Ce mois-ci, l'émission sera exclusivement consacrée aux violences policières, à travers tout d'abord l'interview de Geneviève Leguet, militante d'Attaque, violemment blessée par les forces de l'ordre lors d'une manifestation des Gilets jaunes à Nice. Et dont le procès de l'affaire dite désormais Leguet se tiendra à Lyon ce vendredi 13 octobre. Puis nous reviendrons sur l'ensemble des manifestations contre les violences policières et le racisme systémique de la police qui se sont tenues le 23 septembre partout en France avec un focus sociologique sur la notion de jeunesse et plus particulièrement sur la jeunesse racisée. Vous écoutez La Gueule Ouverte, l'émission mensuelle d'Attaque Marseille. C'est parti!
Geneviève Leguet, donc c'est le 13 octobre le procès d'un commissaire de police et toi tu seras partie civile. Est-ce que tu peux d'abord nous rappeler brièvement les faits, donc la date, le motif du rassemblement auquel tu participais, les circonstances dans lesquelles tu as été grièvement blessée?
Oui, alors le 23 mars 2019, il y avait la venue du président chinois, mais en fait, il n'était pas là le 23, il était là que le 24. Mais le 23, il y avait soi-disant une interdiction de manifester tout autour de la place Garibaldi, toutes les rues qui y venaient. Mais l'arrêté était flou. Et puis personnellement, comment dire, j'en avais marre, et pas d'autre mot, d'entendre, de voir qu'on retirait nos acquis, et puis le droit de manifester, c'est un droit constitutionnel. Donc, en tant que porte-parole d'Attaque, j'avais envoyé un message sur la liste Attaque, et j'avais dit qu'on descendait manifester, et puis l'appel, c'était aussi l'appel des Gilets jaunes, parce que j'étais Gilet jaune aussi. Je suis descendue avec un drapeau de la paix tout à fait par hasard parce que c'est le premier que j'ai trouvé dans ma voiture et j'allais dire liberté de manifester.
D'accord. Et donc sur place, il se passe rien, tout est calme.
Alors d'abord, je voulais dire que aussi la colère que j'avais de cette interdiction de manifester, c'était qu'en septembre 2016, j'avais entendu Manuel Valls, qui était Premier ministre, qui avait dit qu'il voulait retirer de la Constitution le droit de manifester. Puis après, il y a eu les lois travail et connerie, on nous a retiré plein de droits. Ensuite, je trouvais que de fil en aiguille, tout foutait le camp. Donc, c'est pour ça que je suis descendue. Alors, donc, quand je suis arrivée, j'ai traversé une foule de policiers parce qu'il y avait, vraiment des CRS, des BAQ, des policiers, des gendarmes. Enfin, il y en avait. La place était pleine. J'ai traversé tous ces policiers qui m'ont absolument rien dit. Et puis, j'ai repéré mes copines d'Attaque et quelques gilets jaunes. Et là, j'ai pris connaissance de la place, j'ai vu qu'il y avait vraiment tous ces policiers, puis j'ai vu qu'il y avait des manifestants qui étaient nassés par deux cordons de policiers. Nous, on avait les gendarmes de Marseille, je crois, qui étaient là, mais ils nous ont pas nassés, mais bon, ils étaient quand même là. Et il y avait un troisième endroit à Jean Jaurès, en haut de Jean Jaurès aussi, où il y avait des gens. Bon, enfin, mais bon, ça se passait bien. Nous, on chantait des chansons un peu révolutionnaires, tout ça. Et à un moment, en fait, les gendarmes, à un moment donné, la copine qui était à côté de moi d'Attaque, elle criait « La place, elle est à nous, la place, elle est à nous », parce qu'elle était à nous debout avant. Et elle est à nous. Et donc, elle a énervé un petit peu les gendarmes qui l'ont prise comme un sac à patates et qu'ils ont commencé à vouloir la battre. Et nous, on a crié « Arrêtez, arrêtez, c'est votre mère, c'est votre grand-mère !» Et puis, ils l'ont lâchée. Et quand elle est revenue, on leur a dit, mais enfin, vous comprenez pas que, en tant que gilet jaune, on se bat aussi pour vous, vous gagnez combien? 1 500 euros. Et alors, à peu près, ou 1 200, je sais pas. Et alors, quand vous avez payé le loyer, les assurances, l'électricité et tout, vous avez plus rien pour vivre. Et ils étaient un peu d'accord avec nous. Je veux pas dire qu'on a sympathisé, mais bon, ils étaient, voilà, bon. Je voudrais pas que ça leur porte préjudice. Après, à un moment donné, c'était 11h30, midi moins 25, ils nous ont dit, vous voulez pas aller, du côté de Jean Jaurès? Alors, moi, ça m'a posé question. Une copine qui dit, oui, de toute façon, on avait décidé qu'on partait à la manif des Gilets jaunes à 14h à la gare, qui, elle, était autorisée. Et donc, on est parti de là où on était pour aller sur Jean Jaurès. Et là, Jean Jaurès, elles ont commencé, mes copines, à prendre la rue des Bastions pour partir. Et moi, j'ai fait un dernier tour de drapeau. Et puis, tout d'un seul coup, je me suis dit, oh là là, mais qui c'est que j'ai derrière moi? C'est les jeunes gendarmes. Et puis, je me retourne, et puis, c'était de gros CRS, policiers avec la mine patibulaire. Ils avaient les casques, ils avaient déjà les boucliers, tout ça. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui va t'arriver? Et puis, je me retourne, et puis, je me dis, non, il t'arrivera rien puisque t'as un drapeau de la paix et tu dis simplement liberté de manifester. Donc, eh ben, voilà, je suis sortie de mon inconscient. Ça, c'était midi moins 20. Et je suis sortie à l'hôpital aux urgences de mon inconscience ou de coma, je sais pas, à 18h30. Voilà, j'ai rien vu de plus.
D'accord. Tu as rien vu de plus?
Non.
Donc, par contre, il y a eu des images, hein, heureusement, d'ailleurs,
oui,
qui ont montré la charge qui t'a laissée par terre.
Oui.
Et donc,
les
au
images,
bout de...
pardon, d'ailleurs, qui viennent qu'après, c'est-à-dire qu'au départ. On voulait te faire dire que c'était un journaliste qui t'avait bousculé. Et c'est ces images
Alors
qui ensuite.
Voilà. Alors ça, c'est le lendemain. Donc, je me réveille aux urgences à 18h30. Je passe la nuit. Et le lendemain matin, à 7h32 du matin, alors je dis l'heure exacte parce que c'est sur les procès, deux policiers qui rentrent et qui me disent, c'est bien le caméraman qui vous a fait tomber. Alors moi j'étais encore dans les vapes, hein, mais je dis écoutez, non, pourquoi un caméraman me ferait tomber? Moi j'avais rien vu, je savais rien. Je dis non, mais je vois pas pourquoi un caméraman me ferait tomber. Donc quelques temps après j'ai plus l'heure, j'ai pas l'heure dans les procès parce qu'il le nie. Vient deux autres policiers qui me font la même injonction. C'est bien le caméraman qui vous a fait tomber. Alors je dis mais non, j'ai déjà dit aux deux autres policiers qui sont venus tout à l'heure que non. Quelques heures après, viennent deux policières me dire, Madame, c'est bien le caméraman. Je dis, mais à quoi vous jouez, là? Non, mais six. Non, mais ça parle, ça. Parce que, en fait, il faut savoir que si j'avais dit oui, il n'y avait pas de procès.
Et oui.
Voilà.
Et oui.
Donc, il faut se poser la question parce qu'ils ont compris qu'ils avaient fait une erreur. Et donc, il fallait à tout prix me faire dire que c'était quelqu'un qui m'avait fait tomber. Alors que, j'ai un coup sur la tête qui pour l'instant ils disent, le policier dit qu'il m'a juste bousculé, c'est pas vrai, j'ai un trou sur la tête que je peux pas me faire toute seule ni en tombant. Voilà. Donc
en tombant on se fait mal que d'un côté, pas de tous les côtés.
Voilà. Hein. C'est pour ça que l'affaire Le Guay c'est une affaire d'État, parce qu'autour de l'affaire Le Guay, il y a que des mensonges, y compris au plus haut avec Macron.
Oui,
Alors ensuite, il y a eu l'épisode où tu as pu demander la délocalisation du procès, oui, parce que l'enquêteur chargé de cette enquête était l'épouse, le procureur.
La compagne. Alors le procureur qui a été muté 4 mois après, avait chargé la compagne du commissaire Souchy qui a ordonné la charge de l'enquête. Et là, malheureusement et heureusement, Mediapart a fait des investigations. Pascariello, c'est une femme vraiment merveilleuse, parce que c'est grâce à elle aussi qu'il y a le procès qui est contre Souchy, parce que elle a découvert plein de choses. Donc, un agent administratif qui a fait son travail de lanceur d'alerte, Ludovic Fayolle, d'ailleurs, je trouve qu'on lui rend pas assez hommage à cet homme, 34 ans, qui a beaucoup subi, si vous le direz après. Donc, a dénoncé le conflit d'intérêts. Donc, là aussi, vous voyez, quand je dis que l'affaire Le Guay est émaillée de mensonges, mais de, de, de choses de conflits d'intérêts, tout ça. Alors Ludovic, ben il a été suspendu, Ludovic Fayolle, il a été suspendu pendant deux ans de la fonction dans le ministère de la justice, pas la justice, de l'intérieur, et il a dû partir de Nice, repartir chez ses parents à 34 ans, et il a trouvé pendant 4 ans, il a trouvé que des petits boulots alimentaires, hein. Voilà, c'est vraiment, moi, ça me rend malade. Alors qu'il a fait son devoir, hein, son devoir de citoyen. Tous les lanceurs d'alerte sont très punis dans cette société. C'est vraiment lamentable.
C'est lamentable. Effectivement.
Donc, il faut savoir que le préfet a été muté. Tout de suite, une semaine après, même pas, le procureur a menti en disant que les policiers ne m'avaient pas touché. Et puis, 3-4 jours après, il a dit « Nous avons regardé pixel par pixel, il y a bien un policier qui a bousculé Madame Le Guay, donc mensonge. » Et après, quand il est muté, au mois de, je crois que c'est le 11 juillet 2019, il est muté, et là, il donne… en grande pompe, un grand repas avec ses amis. Et là, il dit, j'ai menti dans l'affaire Le Guay pour protéger Emmanuel Macron, le président. Mais c'est scandaleux, parce qu'un procureur de la République, c'est un homme qui est là pour le peuple, justement, pas pour sauver, mais comment dire, pour protéger le peuple.
Et on voit et pas lui, en quoi, d'ailleurs, M. Macron aurait besoin d'être protégé dans cette histoire. Il n'est pas mêlé à l'histoire, lui.
Oui,
à
ben
part ses propos.
Voilà, ben écoute, voilà. Donc, lui, il a dit qu'il avait protégé Macron. Voilà. Donc, mais sereinement, comme ça, voilà. Donc, c'est fou tous ces mensonges, tous ces. Alors, il faut savoir que ce procureur, il était avec Estrosi dans la salle de visionnage des caméras de Nice. Donc, ils savent très bien ce qui s'est passé. Voilà.
Oui.
Mais comme par hasard, juste à ce moment-là, je crois, il y a pas de vidéo qui montre qu'on me tape sur la tête. Et puis aussi, dans les 33 pages, donc, de l'ordonnance qui est arrivée contre Souchi, là, qui va passer donc vendredi, il y a au moins 15 policiers qui sont interrogés par les juges de Lyon. Alors, comme par hasard, soit ils avaient pas la caméra branchée, soit elle dysfonctionnait. Il n'y en a pas un qui avait la caméra qui fonctionnait. C'est pas beau, ça?
C'est pas beau, ça? Ouais, ouais.
Et en plus, autre chose, c'est que là où ça m'est arrivé, il y a deux grands immeubles. Et sur les photos, sur les vidéos des amateurs, on voit que tous les gens sont à leur fenêtre avec des téléphones en train de filmer. Eh bien, il y a un copain qui est allé faire le porte-à-porte. Il n'y a pas une personne qui a voulu témoigner. Ça parle pas, tout ça?
Ouais.
Est-ce que tu pourrais revenir peut-être, Geneviève, sur le tournant politique quand Macron fait ses déclarations? Enfin, tu parlais aussi que le policier a voulu ne pas mettre en difficulté Emmanuel Macron. Tu peux rappeler comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il dit? Parce que c'est quand même aussi hallucinant les propos qu'il a pu sortir.
C'est pas le policier, c'est le procureur, hein, qui a pas voulu.
Ah pardon, c'est le procureur. Oui, pardon.
Voilà. Donc les propos d'Emmanuel Macron, ben il m'a fait beaucoup de publicité parce que ça fait beaucoup d'émotions en France. Hein. J'ai reçu 1000 lettres, il faut le savoir. Hein. Et j'ai reçu des lettres aussi des États-Unis, du Canada, du Chili, enfin non, après de l'Europe occidentale. Hein. Voilà. Ben écoute, il a dit, je souhaite un prompt rétablissement à Madame Le Guay, mais je lui demanderai plus de sagesse. Alors, moi, je lui réponds que moi, je suis sage et que lui n'est pas sage. Que la sagesse, c'est savoir aussi être citoyenne. Donc, il me retire ma citoyenneté à 73 ans, il nie ma citoyenneté. Ça, je le dirai au tribunal s'il me donne la parole. Président de la République qui nie ma citoyenneté. Et en plus, pour moi, être sage, c'est dénoncer quand les choses vont pas dans le bon sens et que c'est pas démocratique. Donc c'est ce que j'ai fait en descendant. Je revendique de ma place de citoyenne de dire que la liberté de manifester, elle existe, c'est un droit constitutionnel. En plus, c'était pour rien parce que le président chinois, il était à Beaulieu, donc à 25 kilomètres le lendemain. Donc c'est vraiment. Il faut savoir aussi que la manif des Gilets jaunes était autorisée à 14 heures à la gare à la gare SNCF et que tout l'après-midi, le commissaire Souchy a fait bastonner les gens. Il y a eu une épaule démise, il y a eu une oreille arrachée, il faut le savoir ça. Il y a plein de manifestants, alors qu'elle était autorisée, ils les ont poursuivis dans les rues de Nice, c'est pareil que ça a été un cauchemar. Comme quoi, et il faut savoir que quand même, j'ai pas parlé de ça, mais quand la première charge, il a demandé à un capitaine, au capitaine des gendarmes. Donc, ce capitaine des gendarmes, il a refusé d'obéir aux ordres du commissaire Souchy. Vous savez que quand on est fonctionnaire et qu'on oublie qu'on désobéit à un ordre, il faut dire pourquoi, il faut faire un rapport. Donc, le lundi 25 mars 2019, il avait fait son rapport, il l'a déposé et il dit qu'il a refusé d'obéir parce que les manifestants étaient calmes, il ne se passait absolument rien, ce qui est vrai, hein, absolument rien, et que lui, il a refusé d'obéir. Et dedans, dans son rapport, que Pascal Pascariello a découvert, c'est elle aussi qui l'a mis au goût du jour, enfin, qui l'a montré, dans son rapport, il dit que quand... vous m'entendez?
Oui,
ah oui, oui.
Ah, que dans son rapport, il dit que quand ils ont été formés, dans leur formation, on leur dit que quand les manifestants sont calmes, ils doivent rester à quelques mètres d'eux, et surtout, ils ne doivent pas avoir ni les boucliers, ni les tonfas à la main. Parce qu'il faut faire une espèce de sérénité, puisqu'il se passe rien. Et donc là, il dit, c'était pas du tout le cas avec le commissaire Souchy. Et il y a une femme gendarme qui témoigne aussi l'ordonnance que j'ai reçue. Et elle dit que dès le matin, à 8 heures, il les a accueillis en disant « On va triquer du manifestant, on va triquer du manifestant !» Enfin, ils faisaient que répéter ce mot « triquer ». Et ces gendarmes, ils disent qu'ils ont été choqués. Parce que pourquoi en commençant à 8 heures, ils commençaient à dire ça. Enfin, il était dans un état second, hein, comme toujours d'ailleurs. Hein. Donc, je dis comme toujours parce qu'il est toujours, commissaire à Nice. Hein. Il a même été décoré par Monsieur Castaner. Hein, voilà. Donc, tout ça joue quand même en ma faveur. Voilà. Parce que. Oui.
Donc, tu penses que le procès a quand même des bonnes chances d'aboutir à la condamnation.
C'est ce que me disent mes avocats. C'est ce que me disent mes avocats. Mais bon, moi, ce que je voudrais dire, c'est que.
Parce qu'il faut dire aussi que tu as eu des graves conséquences physiques, hein, toi.
Ouais. On en parle après. Je vais dire, ce procès, oui. Je l'ai fait parce que je voulais faire. Je voulais montrer que ces violences policières, je voulais faire tomber toute la chaîne, hein, c'est-à-dire préfet, procureur, directeur de la sécurité, Castaner et Macron. Bon, c'est sûr que Macron étant élu, on ne pouvait pas. Castaner, à ce moment-là, il était ministre, on m'a dit qu'on ne pouvait pas. Donc, et là, le tribunal n'a retenu que le commissaire Touchy. Ce qui ne me fait pas grand plaisir, même si je retire rien de ce qui est écrit, hein, parce que il se comporte. Mais soit il est lâché par sa direction et par le gouvernement aussi, par le ministère, je veux dire. Et soit ce monsieur fait du zèle. Et alors, comment ça se fait que ça fait 54 mois qu'il est sur le terrain? Soit il fait pas du zèle et il répond implicitement. À toutes les directives, enfin toutes les lois, dont la dernière loi de février 2017, où on donne carrément un permis de tuer aux policiers. Donc voilà. Alors je voudrais ajouter quelque chose. En 1981, en France, nous avons aboli la peine de mort. Et bien depuis 2000. Alors disons qu'on est sur les lois, on est toujours sur les lois scélérates de 93-94. Contre les communards, 20 ou 30 000, ils en ont tué. Et après, les gouvernements, depuis cette date-là, se sont servis de ces lois scélérates. Mais c'était ponctuel. C'était inacceptable, mais c'était ponctuel. Comme le 6 février 34, comme, on va dire, 61, quand ils ont jeté les maghrébins à la Seine. Enfin, on va dire, 68, je crois qu'il y a eu un ouvrier de Renault tué, ou 86, Malek Moussekim. Mais on va dire que depuis 2005, ça n'a jamais arrêté. C'est-à-dire que depuis 2005, 25 à 30 personnes jeunes sont souvent des quartiers populaires qui sont tuées. Ça, personne ne le sait. Alors, moi, je voulais faire de ce procès, justement, un procès de l'affaire Le Guet, bien sûr, mais je voulais qu'on reconnaisse qu'il y a des violences policières, enfin, que les gouvernements reconnaissent qu'il y a des violences policières d'État en France. Et il faut que ça cesse. Alors, pourquoi? Parce qu'en 80, quand les gens, ils passaient à la guillotine, ils avaient eu un jugement. Et bien maintenant, depuis 2005, on tire sur les personnes, on les tue, ils n'ont même pas de jugement. Vous voyez, c'est vraiment très grave ce qui se passe en France. C'est pas démocratique tout ça. Ils se sont donné le permis de tuer.
Et surtout depuis 2017, donc où ils ont aligné les lois qui concernaient auparavant les gendarmes, enfin les lois des flics sur ceux des gendarmes, en leur donnant ce droit de tirer en cas
Voilà. Mais enfin,
d'obtempérer.
ça a commencé en 2005. Alors, en 2017, c'est sûr qu'ils ont renforcé le droit des policiers de tuer. Et on voit bien que en 10 ans, on a eu 17 morts pour refus d'obtempérer en France, pendant qu'il y a eu un mort en Allemagne. Donc, on voit bien qu'en France, il y a la gâchette facile.
Oui. Et justement, donc, le 13 octobre, le procès de Rabah Souchi se tient à Lyon. Et à
Oui.
Lyon, vous avez préparé beaucoup d'initiatives, donc, pour,
Alors, on
je
va
vous
dire que
disais,
pareil.
à la
Oui.
fois pour obtenir sa condamnation et pour faire passer cette idée, justement, que tu développes là, d'en faire le procès de toutes les violences policières.
Voilà. Voilà. Alors, donc déjà, je vais reprendre tout à l'heure, on avait parlé du dépaysement. Donc, mon avocat, j'ai deux avocats, un parisien et une niçoise. Donc, l'avocat de Paris avait passé une journée qu'il connaissait pas du tout au tribunal de Nice. Il m'a dit, dans ma chambre d'hôpital, il m'a dit, Geneviève, on fait dépayser le dossier parce que à Nice, c'est pas possible. Voilà. J'en dirai pas plus. Bon, tout le monde comprendra quand on pense que Montgolfier, il avait essayé de mettre de l'ordre et que quand il est parti, il a dit j'ai pas réussi à mettre l'ordre qu'il fallait. Donc Nice, ça reste quand même un tribunal un peu spécial.
Oui.
Donc on a dépaysé à Lyon. Donc alors moi je vais rentrer dans le tribunal avec mes avocats et puis des gens qui étaient là, qui vont témoigner. Et puis parallèlement, Attac a eu l'idée avec le collectif de Lyon, qui est un très beau collectif qui existe depuis longtemps, avec donc des organisations comme ATTAC, la LDH et plein de petites organisations moins connues mais qui existent sur Lyon, les syndicats CGT, Solidaires, FSU, quelques partis politiques comme l'AFI Ensemble, NPA et aussi Europe Écologie Les Verts. Enfin, ils ont l'habitude de se rencontrer et c'est un collectif qui travaille. Donc, ils se sont rencontrés et ils ont décidé de faire de la journée du 13, parallèlement au tribunal, une journée meeting et travail sur les violences policières. Donc, le matin, on partira. Alors, on a obtenu la bourse du travail toute la journée. Donc, on partira de la bourse du travail. Et puis, ils me feront comme une haie d'honneur. Et puis, je monterai les marches. Ensuite, ils repartiront travailler. Donc, ils reçoivent les familles de victimes et des victimes de violences policières qui ne sont pas reconnues. Parce que pourquoi je veux faire de ce procès, le procès des violences policières d'État. Parce qu'il faut savoir que j'ai eu droit, c'est un droit, à faire un procès, mais il faut savoir que toutes ces familles de victimes n'ont pas le droit à un procès. C'est très, très grave. Donc il faut vraiment que ces familles puissent avoir le droit d'avoir un procès. Donc voilà, donc ces familles viendront témoigner parce qu'elles sont souvent des non-lieux. Et quand elles arrivent à avoir un procès, mais c'est très, très peu, les policiers sont toujours blanchis. Là, je fais un petit encart. Il faut savoir que le procès, l'affaire Le Guet, c'est un procès historique parce que ça fera 70 ans qu'il n'y a aucun donneur d'ordre qui est passé devant la justice. Donc, c'est vraiment un procès historique. Voilà. Alors après, de 11h30 à 14h, ils rejoindront l'intersyndicale pour défiler avec les syndicats. Et à 14h, ils reviendront jusqu'à 18h30. Donc, il y aura des tables rondes de comment on va arriver à faire reconnaître ces violences policières d'État par l'État, parce que nous, on les reconnaît. Mais enfin, croire que dans la population, tout le monde ne les reconnaît pas. Hein. Et puis après, il y aura un concert de HK Les Saltimbanques de 18h30 à 19h30, sachant que ils le font gratuitement pour moi. Et puis après, il y aura de nouveau encore un peu des débats. Et puis après, on sait pas, parce qu'on sait pas à quelle heure on va sortir du tribunal. Voilà. Après, bon, il y aura les journalistes toute la journée. Voilà. Donc, on a tenu à faire cette journée parce que c'était important pour nous, pour Attac, notamment, mais les autres aussi, de témoigner que il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. C'est des meurtres. C'est des meurtres.
C'est bien. Merci beaucoup, Geneviève. Est-ce que tu vois quelque chose dont on n'a pas parlé que tu veux rajouter? Peut-être sur quand même les bon les quand je disais il y a eu des graves conséquences pour toi. Tu as eu des
Oui.
graves conséquences physiques, quoi.
Oui, ben disons que quand je suis arrivée, bon, j'étais dans une espèce d'inconscience, coma, je sais pas. Donc ils ont fait appeler mes filles, ils ont dit que j'allais mourir. Et ils ont dit, si elle meurt pas, ça sera un gros légume à vie. Donc et puis voilà. Et parce que mon pronostic vital était engagé pendant 48 heures, il faut savoir que les policiers sont venus dans ma chambre alors que mon pronostic vital était voilà,
Engagé.
encore. Voilà. Alors quand même, on se pose aussi des questions là. Hein. Ah, puisque j'ai pas dit aussi, c'est que j'avais un vigile 24 heures sur 24 devant ma porte parce que j'étais une terroriste. Ah mais
Ah oui.
il y a tellement de choses que j'en oublie. C'est incroyable. Et ah oui, même mes filles, il fallait qu'elles montrent la carte d'identité pour venir me voir. Hein. C'était. Alors oui, alors donc je m'en suis sortie. Au bout de 3 jours, ils ont rappelé mes filles en disant, écoutez, votre mère, elle est costaud de chez costaud, on n'a jamais vu ça. Elle va s'en sortir. J'ai eu un très grave traumatisme crânien, donc qui a touché qu'aujourd'hui j'ai toujours zéro odorat. Donc j'ai perdu 30% l'oreille droite, les yeux, bien sûr j'ai une démêlée, mais pas que, ils ont touché mes yeux aussi, c'est marqué dans les papiers de l'audience là. J'ai le goût, j'ai que le salé sucré. Ensuite, quand je marche, après avoir fait 45 séances de kiné vestibulaire, je titube toujours. Et puis je suis chez le psy depuis 4 ans et demi. Voilà, donc voilà. Alors
Ouais.
c'est sûr que je suis vivante. Voilà, je suis vivante, je suis miraculée. Juste pour dire que je suis passée devant un expert une fois, et pendant 1 heure, il a consulté le dossier de l'hôpital et il relevait pas la tête. Quand il a relevé la tête au bout d'une heure, il me dit, Madame, comment ça se fait que vous êtes en vie?
Ouais.
Ça,
Voilà. Donc, je suis vraiment une miraculée. Je crois à aucun Dieu. Je suis athée, mais voilà, je suis miraculée. Bon, je vous remercie. J'espère que je ne vous ai pas saoulé.
Non,
Tu
c'était
nous as
très
pas saoulé.
intéressant, merci beaucoup. Et puis ça fait plaisir de te voir en forme. Et voilà, on espère que
Oui.
tout va bien se passer vendredi, du
Ouais.
coup.
Oh, écoute, on croise les doigts. De toute façon, maintenant, c'est les dés sont jetés. Hein. Alors,
Ouais.
vendredi soir, on verra bien. Allez, je vous remercie tous les deux. Vous êtes super. Et vous faites du beau travail à Marseille. J'ai bien aimé les 25 ans, c'était formidable.
Merci, au revoir Geneviève.
Merci
À la
Geneviève et à très
prochaine,
bientôt.
au revoir, à
À très
bientôt.
bientôt. Au revoir.
I was woken by a bang, and I could already taste the pain, the sudden fear that grips and shakes you when you face the truth. Whose sofa was this? Where were my shoes? What did we do last night? I don't remember leaving Nathan's house. Oh yeah, how could I forget why my pants were soaking wet when we'd been pissing ourselves laughing at the news? Did you see it too? It was incredible, they played it on a loop. We couldn't believe it. Basically, they discovered that there were others just like us, other beings, other creatures, other planets and other species who had other gods that they believed in. And they interviewed all of them, and every one of them, not one, could give any hints of a clue what they were doing here either. It's all so pointless. It is, and that's beautiful. I find it humbling, sincerely, yeah. And when you're gone, it brings me peace of mind to know that this'll all just carry on with someone else. But it's true. Come on, come on, come on, come on, yeah. Now we're off to meet them, so pack your weapons. Don't want them thinking they can pull a fast one on us now, do we, Graham?
It's alright, I've fought more wars than I've had at dinners.
Sure you have, but the key to peace lies within us, and we'd already have achieved it if everyone was as enlightened as me. It's hippie bullshit, but it's true. Watch me explode. It's also pointless, but it's not though, is it? It's really real, and when you feel it, you can really feel it. Grab somebody that you love, grab anyone who needs to hear it, and shake them by the shoulders, scream in their face. Death is coming for us all, but not today. Today you're living it, hey, you're really feeling it. Give it everything you've got, knowing that you can't take it with you, and all you ever needed to exist has always been within you. Give me some of that good stuff, that human spirit. Cut it with 100% endurance.
It's hippie bullshit, but it's true. Watch me explode. Ah. It was well worth the money.
Le meurtre de Naël, tué à bout portant par un policier, remet une nouvelle fois sur le devant de la scène les violences policières et les politiques discriminatoires mises en place depuis plusieurs décennies. Les premiers concernés sont les personnes racisées et précarisées, victimes au quotidien des politiques néolibérales et de ses conséquences désastreuses dans leur vie quotidienne. Fermeture des services publics, inflation, hausse du prix des loyers et de l'énergie. La fracture entre la police et la population est le résultat des politiques injustes et discriminatoires menées depuis longtemps. Contrôle aux faciès, violence contre la jeunesse des quartiers, tous ces actes sont le résultat d'un racisme systémique qui traverse la police. La loi de 2017 sur l'usage des armes de service n'a fait qu'amplifier ce phénomène. Rien qu'en 2022, 13 personnes ont été tuées par des tirs de la police française sur leurs véhicules. L'ONU a d'ailleurs critiqué à plusieurs reprises les politiques sécuritaires et les problèmes institutionnels de racisme en France, en particulier dans les forces de l'ordre. La dérive autoritaire de la politique gouvernementale frappe également les mouvements sociaux et écologiques avec une répression toujours plus violente. Nous l'avons observé lors de la mobilisation contre la réforme des retraites, puis à Sainte-Soline, sur les méga-bassines. L'institution policière semble aujourd'hui hors de contrôle de la part du ministère. Les déclarations inacceptables de certains syndicats policiers appelant à la guerre civile ou les tentatives de déstabilisation de la justice mettent en péril notre état de droit. Pendant ce temps-là, l'extrême droite galope et fait son nid. Les images des violences commises par des milices identitaires lors des émeutes ou encore la cagnotte honteuse de soutien aux policiers inculpés en est la preuve. Lors des émeutes, un mot revenait sans cesse en boucle. Les jeunes, Mais qui sont-ils réellement? Faut-il parler de la jeunesse ou des jeunesses? Loin de former un groupe social homogène, les jeunes voient leurs conditions de vie et leurs perspectives d'avenir bien différentes selon leurs origines sociales. Parmi les classes populaires, les jeunes racisés souffrent de discriminations supplémentaires. Pour la sociologie, la jeunesse commence lors de l'entrée au collège et s'achève avec l'accès au statut d'adulte, lorsque sont franchies différentes étapes. Décohabitation familiale, premier emploi, installation en couple et éventuellement parentalité. Ce qu'on appelle jeunesse englobe donc une période qui peut durer 15 ans et dont l'unité est en réalité très discutable. C'est bien le constat d'une multiplicité des expériences de la jeunesse qui a conduit Pierre Bourdieu à affirmer que la jeunesse n'est qu'un mot. En effet, que l'on aborde la jeunesse comme un groupe social partageant des conditions d'existence ou comme un processus de transition entre l'enfance et l'âge adulte, l'étude des expériences concrètes des jeunes montre que, plutôt que de parler de la jeunesse, il faudrait évoquer une jeunesse plurielle, structurée par d'importants rapports sociaux. Nombreux sont les facteurs de disparité dans les façons de vivre la jeunesse, mais l'actualité suggère de s'intéresser aux inégales conditions d'existence des jeunes de milieux différents, vivant dans les centres urbains, les quartiers périphériques, mais aussi les campagnes. Dès les années 1980, François Dubé mettait en évidence la colère d'une génération subissant l'opposition entre les effets de la crise économique et les aspirations à l'émancipation. Il analysait les mouvements sociaux de jeunesse à cette époque comme l'expression d'une tension entre une demande de reconnaissance sociale, nourrie par les discours méritocratiques d'une école moins ségrégative, mais en réalité plus sélective, et l'exclusion économique, sociale et politique qui constitue le quotidien des jeunes des quartiers ségrégés. Les travaux de Fabien Truong confirment l'actualité de cette analyse. Ce sociologue décrit l'expérience de garçons, souvent racisés, issus de ces quartiers marqués par une forte concentration de pauvreté. Ces jeunes gens sont nourris à l'idée que le salut ne peut passer que par l'école, mais les structures de cette institution les placent dans une impasse qui crée de la frustration. L'auteur décrit un sentiment d'abandon, voire de discrimination de la part des institutions qui aboutit à des rapports difficiles avec les adultes et notamment avec la police. À titre d'illustration, une enquête sur les contrôles de police à Paris effectuée par Fabien Jobard et René Lévy révèle que le fait d'être perçu comme jeune et ou noir ou maghrébin multiplie des chances de subir un contrôle d'identité. Par exemple, à la station Gare du Nord, une personne perçue comme jeune a 5,7 fois plus de chances d'être contrôlée qu'une personne qui ne l'est pas, et une personne perçue comme maghrébine en a 13,2 fois plus. Ces jeunes des quartiers populaires, souvent qualifiés de ghettos urbains, voient leur vie ponctuée par des discriminations de toutes sortes. Marwan Mohamed montre d'ailleurs que l'échec scolaire peut devenir une norme pour des enfants du quartier qui partagent l'expérience de la frustration et du pessimisme collectif et pour lesquels la délinquance juvénile devient un moyen de valorisation. Or, les inégalités dans les façons de vivre de la jeunesse sont déterminantes dans la capacité à effectuer une transition vers l'âge adulte, notamment lorsqu'il s'agit de trouver un emploi. Les jeunes issus des quartiers périurbains rencontrent également d'importantes difficultés d'insertion sur le marché de l'emploi. Si les plus diplômés finissent par s'intégrer socialement, celles et ceux qui sortent de l'école sans diplôme sont eux durablement touchés par la crise. Quand on sait combien l'origine sociale influence le niveau du diplôme obtenu par les jeunes, on comprend que l'écart se creuse entre celles et ceux qui détiennent un diplôme et celles et ceux, majoritairement issus des milieux populaires, qui en sont dépourvus et encourent un risque croissant de marginalisation sociale et professionnelle. Dans ce contexte, l'insertion dans l'emploi des jeunes issus des quartiers périurbains peut se relever particulièrement longue et difficile, surtout si elles sont issues de l'immigration. Ainsi, selon l'INSEE en 2015, si 69% des moins de 30 ans ayant fini leurs études étaient en emploi, seuls 49% de celles qui étaient d'origine maghrébine occupaient un emploi, alors même que, lorsqu'on contrôle leurs autres caractéristiques sociales, les jeunes d'origine maghrébine réussissent en moyenne mieux leur scolarité que la moyenne. Si les choix d'orientation et les inégalités en matière de capital social peuvent expliquer une partie de ces écarts, la cause est surtout à chercher du côté de la très forte pénalité à l'embauche des jeunes d'origine maghrébine. Cette difficulté d'accès à l'emploi s'accompagne d'un fort sentiment de discrimination de la part de ces jeunes qui pourtant adhéraient fortement au principe d'égalité lié aux promesses de l'école républicaine. Les révoltes de novembre 2005 et de l'été 2023 révèle d'ailleurs que la confiance dans le modèle français d'intégration est mise à mal par l'ampleur et la persistance des discriminations dont sont victimes les jeunes populaires et ou immigrés. Pour revenir plus précisément aux émeutes qui ont suivi le meurtre de Naël, il convient de s'intéresser particulièrement aux jeunesses racisées. Dans leur ouvrage « Du racisme d'État en France » avec un point d'interrogation, les co-auteurs Fabrice Dume, Camille Gourdeau et Aude Rabault portent une analyse prenant en compte la longue histoire coloniale, patriarcale et capitaliste de la France qui permet de comprendre la surreprésentation des jeunes garçons racisés issus des quartiers populaires dans les victimes des violences policières. La mort de Naël, comme les autres crimes racistes, déplace le regard vers ce qui autorise les institutions républicaines à discriminer singulièrement une part des habitants du pays des Lumières. Il est d'abord tentant de chercher des explications antiracistes du côté de la jeune victime. Ce serait sa couleur de peau qui, en dernier ressort, bien commode, expliquerait le geste raciste policier dont on cherche à tout prix à mesurer l'intentionnalité pour s'en débarquer. Il est aussi tentant de chercher des explications anticapitalistes du côté de la jeune victime prolétaire. Ce serait son appartenance au quartier populaire qui expliquerait les violences policières dont les logiques seraient universalistes. On laisse alors sous le tapis les processus et mécanismes spécifiques par lesquels les délégataires de l'autorité publique sont autorisés à discriminer, voire tuer des jeunes et pas d'autres. Depuis plusieurs décennies, grâce aux mouvements sociaux antiracistes, différentes expressions circulent dans le débat politique et font l'objet d'investigations dites académiques. Racisme systémique, institutionnel, quotidien, structurel ou encore d'État. Par-delà leur singularité, ces expressions ont en commun de faire polémique parce qu'elles proposent une redéfinition politique du racisme et ne se contentent pas de l'alibi capitaliste ou de quelques brebis galeuses racistes pour cacher ce qui fait l'ordinaire des jeunesses racisées. Pour comprendre comment le tir policier sur Naël a engendré en quelques heures de nouvelles révoltes urbaines, le travail des co-auteurs propose d'articuler au moins quatre facteurs explicatifs. Les deux premiers font consensus à gauche. Un facteur professionnel a trait aux formes de militarisation croissante du travail policier dans le maintien de l'ordre. Cette dynamique éclaire la montée attestée depuis 2017 du nombre de personnes tuées par le travail policier, notamment des jeunes hommes racisés. Le deuxième facteur, plus géographique, clive la jeunesse en termes de classe. Il existe des beaux quartiers et des quartiers populaires. Le communautarisme bourgeois des premiers alimentant en continu le déclassement des seconds au détriment des populations descendant d'immigrés qui sont surreprésentées en partie en raison de leur surexposition à la pauvreté. Mais cette dynamique de classe et son caractère racisé ne sont pas intelligibles si l'on occulte le processus qui fabrique une jeunesse racisée masculinisée. Le consensus est alors moindre. Les jeunesses racisées désignent des expériences de position sociale minorisée, résultant des logiques de racisme quotidien, structurel, institutionnel, systémique, qui traversent aussi les institutions chargées d'administrer la jeunesse, de l'école à la justice et la police, en passant par le travail social. Ces logiques reconfigurent la race perçue des uns des unes et la blanchité invisible des autres au sein du fonctionnement ordinaire des institutions. Le racisme français et ses spécificités sont, selon l'approche des auteurs, indissociables de l'esclavage, de la colonisation et des politiques migratoires par lesquelles les personnes, fabriquées et ou perçues comme issus du continent africain, ont été discriminés de manière singulière pour devenir ici les principales victimes des crimes racistes. Ces trois dynamiques, policières, géographiques, historiques, ont simultanément alimenté des pratiques et représentations institutionnelles discriminatoires, y compris légales, si l'on prête attention aux droits migratoires à deux vitesses qui séparent Français et Françaises et étrangers et étrangères, Européens et Européennes et non-Européens non-Européennes. Le crime raciste est alors d'autant plus plausible que le geste raciste qui tue ne constitue qu'un cran de plus dans le continuum des pratiques discriminatoires, légales ou non, qui visent les personnes vues comme nord-africaines. Enfin, la masculinisation disproportionnée des auteurs et victimes de crimes racistes révèle combien le genre clive aussi la jeunesse racisée et son traitement institutionnel. Là encore, plutôt que de pointer les pratiques virilistes des sauvages vis-à-vis des institutions, il s'agit d'analyser comment le racisme institutionnel a toujours été en interaction avec des formes de sexisme institutionnel au long cours qui ont fabriqué la figure du garçon arabe ou africain violent. Selon cette approche dite intersectionnelle, la mort de Naël, jeune garçon racisé des quartiers populaires, n'est intelligible que si la France se confronte à la longue histoire raciste, patriarcale, capitaliste de ses institutions. Alors, pour conclure, pour toutes ces raisons, environ 80 000 personnes ont défilé partout en France le 23 octobre à l'appel de nombreux syndicats, partis de gauche et associations, dont bien évidemment ATTAC, pour faire front ensemble contre la répression des contestations sociales, démocratiques et écologiques, pour la fin du racisme systémique, des violences policières et pour la justice sociale, climatique, féministe et les libertés publiques. À Marseille, 198 organisations syndicales, politiques et associatives ont soutenu l'appel unitaire. 3000 manifestants ont battu le pavé de la porte d'Aix jusqu'à la place Bernard Cadenas. La réussite de cette journée permet d'envisager la poursuite d'une construction d'un front antiraciste unitaire et durable. Rien ne peut cependant se faire sans un autre partage des richesses, sans lutter contre les inégalités sociales. Rien ne peut se faire non plus sans la lutte contre la pauvreté et la précarité, aggravée par le dérèglement climatique, la hausse des loyers et des charges, et sans le renforcement des services publics et de l'éducation populaire. C'est à ces chantiers que le gouvernement devrait s'attaquer au lieu de mener des politiques publiques régressives qui font le lit de l'extrême droite.
To have misplaced his pet lamprey, his only source of intimacy throughout the whole of last year. Now he's spinning in circles to the tune of radio static, praying to Sally Webster and watching God on the TV. Can't cook, won't cook, tinfoil's only good for hats these days. Screen time's the new sustenance, oh, that's what Simon says. And if he feels empty, well, the response is automatic. Just opens up Animal Crossing and feeds his avatars to broccoli. Better get unjaded. Unstifle now. But I just don't know how. Why is it so hard to look after yourself these days? Heels gone soft, eyes perpetually glazed. It's only out watching YouTube videos on how to suck eggs and what it feels like to feel real or to be amazed. Googling questions like, should I start microdosing? And how come I'm standing outside Four Seasons Total Landscaping? And what's the difference between the morning and the evening? And what's the difference between waking and sleeping? Better get unstifled. Unjaded now. Gotta get untangled. Somehow. Guitar solo. Future gonna be, and how the hell are we gonna stop these fiends? The man asked Susie from the comfort of his documentary. Well, it's all violence upon violence upon violence. Forget self-expression, forget sentimentality, forget the gods, forget freedom, forget offline reality. I'm blowing bubbles, decreasing in size exponentially. Come climb inside, watch 10 hours of slime ASMR with me. Unstifled now. Gotta get unfrazzled. Man, I've forgotten how. Well, maybe I should settle my furniture, become like a Zen monk or like Steve Jobs, and give myself no choice but to just meditate on a cold, hard ground. And I think I can still see the joy in people. Like you can see the ghosts of dinosaurs and birds. And I think it's about time to go back to the future again. On Amazon Prime Video.
Il nous reste à parler de l'agenda.
Allez, l'agenda d'attaque pour la fin du mois d'octobre et du mois de novembre.
Et le début novembre.
on peut retenir la journée de demain, qui sera une journée de grève et de manifestation. Donc,
Voilà, donc bien sûr, il y a ceux qui vont pouvoir aller au procès dont on vient de vous parler, du commissaire Souchy à Lyon, hein. Bien sûr, il y a une mobilisation nationale autour de ça, mais c'est aussi une journée non seulement nationale, mais même européenne, donc tu me disais, et intersyndicale, avec un peu tous les syndicats qui appellent à une journée de grève et de manifestation le 13 octobre. À Marseille, le rendez-vous, c'est à 10 h au Réformé, donc en haut
Exactement.
de la Canebière. Et ben nous, à TAC, on y sera. Alors, je suis pas sûre qu'on y soit avec les Rosies, hein. C'est même peu probable. Mais on n'a pas trop de nouvelles chansons adaptées. Bon, tu peux nous rappeler peut-être les thèmes.
Oui, bah c'est une journée, comme tu le disais, une mobilisation dans le cadre européen, hein, pour les salaires, les pensions, l'égalité professionnelle femmes-hommes, contre l'austérité, pour le financement, pardon, des services publics dans le cadre d'une toute autre répartition des richesses. Et donc, bien évidemment, ATTAC sera présent sur Marseille pour accompagner cette journée de mobilisation.
Et puis alors dans les mobilisations un peu générales comme ça, il y a aussi le 3 novembre. Et là, ça sera un vendredi aussi, je crois, une journée écolo, hein. En fait, un peu dans le cadre des appels, il y a la jeunesse pour le climat, avec sûrement des choses qui seront préparées, mais pour l'instant, on ne sait pas encore trop lesquelles parce que c'est pas fini. Donc voilà, il faut se préparer le 3 novembre à manifester, mais on n'a pas beaucoup de précisions supplémentaires sur cette journée climat pour l'instant.
Et toutes les précisions sont bien sûr à suivre, pardon, sur notre site internet d'Attaque Marseille.
On se dit aussi que la troupe des ascendants devrait rejouer bientôt, non?
Oui, effectivement, il y a plusieurs dates prévues. Déjà à la DAR, puisque la représentation avait été reportée en juin lorsque les transports en commun suite aux émeutes fermaient beaucoup plus tôt. Donc ça avait été compliqué, donc on avait décidé de le reporter. Et une date est en cours de prévision à l'Estac, du côté de l'Harmonie. Voilà, l'Harmonie de l'Estagar, si
Mais on
les
n'a
amis.
pas encore le jour.
Non, on n'a pas encore le jour, donc ça c'est pareil, on fera suivre sur le
On
site
fera
si
suivre,
c'est.
mais ça devrait être quand même tout ça dans la première quinzaine de novembre.
C'est la tendance, en tout cas,
La
c'est ce qui avait
tendance.
été prévu.
Voilà.
Voilà.
Eh ben, on va vous dire au revoir, hein,
Au
et vous donner
revoir,
rendez-vous.
et puis on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission.
Bye
Salut Christine.
bye. C'était La Gueule Ouverte, le rendez-vous mensuel d'Attaque Marseille. On se retrouve le mois prochain, le deuxième jeudi du mois, de 15h à 15h30 sur Radio Galère. Allez, zou, bouleg, casse-toi, bye, bye.